tous. Il était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens. Reporters sans frontières dénonce la mort d'un journaliste de la chaîne Al Jazeera, tué par une frappe israélienne à Gaza. 4 autres reporters sont morts aussi hier. Après la France, le Canada ou encore le Royaume-Uni, l'Australie annonce à son tour qu'elle va reconnaître l'État de Palestine, mais elle pose ses conditions, on vous explique. Il y a plus de 750 emplois en jeu. La décision vient de tomber. Le groupe de métallurgie Novasco, anciennement Ascometal, placé en redressement judiciaire, 1 an seulement après sa reprise. Les températures montent encore d'un cran aujourd'hui. Plus de 42 degrés attendus par endroit dans le sud-ouest. 12 départements toujours placés en alerte rouge. Et puis, on vous raconte l'histoire de la mosquée cathédrale de Cordoue, sauvée de justesse des flammes grâce aux leçons tirées de l'incendie de Notre-Dame de Paris. La liste des journalistes tués dans la bande de Gaza s'allonge une nouvelle fois. Hier, 5 journalistes de la chaîne Al Jazeera sont morts, tués par une frappe israélienne dans l'enclave palestinienne. Parmi eux, un reporter bien connu des téléspectateurs. Il s'appelait Anas Al-Sharif. Il couvrait la guerre depuis le début. Valérie Crova, bonjour.
Bonjour.
Envoyée spéciale de France Culture à Tel Aviv, Valérie, l'armée israélienne assure avoir volontairement ciblé le journaliste.
Oui, elle prétend qu'Anas Al-Sharif était à la tête d'une cellule du Hamas sur la base d'informations des services de renseignement et qu'il se faisait passer pour un journaliste d'Al Jazeera. Le reporter se trouvait dans une tente avec d'autres collègues de la chaîne Qatari près de l'entrée de l'hôpital Al-Shifa lorsqu'ils ont été visés par une frappe. La tente était pourtant facilement identifiable grâce à un panneau presse selon le directeur de l'hôpital. Le jeune journaliste d'Al Jazeera se savait en danger de mort le mois dernier. Alors que l'armée israélienne l'a déjà accusé d'être un membre du Hamas, il avait posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il affirmait être un journaliste sans affiliation politique. « Ma seule mission est de rapporter la vérité du terrain, sans parti pris », avait-il écrit. Par le passé, Anas Al-Sharif avait signalé avoir reçu des menaces téléphoniques de la part d'officiers israéliens qui lui donnaient l'ordre de ne plus couvrir le conflit, mais malgré les risques, il a continué à couvrir la guerre dans l'enclave palestinienne, lui qui était né dans le camp de Jabalia dans le nord de Gaza. En décembre 2023, son papa, qui était âgé de 90 ans, était mort dans une frappe aérienne qui avait visé sa maison familiale.
Les précisions de Valérie Crova avec l'aide de Sandrine Malon à la technique. Reporters sans frontières dénonce à l'instant, je cite, avec force et colère l'assassinat revendiqué par l'armée israélienne. Une frappe visant des journalistes, alors qu'hier justement, le premier ministre israélien assurait vouloir laisser entrer des journalistes étrangers dans la bande de Gaza. C'est ce qu'assurait en tout cas Benjamin Netanyahou lors d'une conférence de presse, 40 minutes en anglais à destination de la presse étrangère pour répondre aux critiques sur son nouveau plan militaire. La prise de contrôle de toute la bande de Gaza. Selon lui, ce plan est, je cite, le meilleur moyen de terminer la guerre. Il a également dénoncé une campagne globale de mensonges contre l'État hébreu. Les seules personnes délibérément affamées à Gaza aujourd'hui, ce sont nos otages, dit le premier ministre israélien. De son côté, l'ONU décrit la bande de Gaza comme le territoire le plus affamé du monde. La bande de Gaza, justement, un nouveau pays se dit prêt à reconnaître l'État de Palestine, c'est l'Australie. Le pays assure qu'il le reconnaîtra le 9 septembre prochain, jour de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Date choisie aussi par la France et le Canada pour reconnaître l'État de Palestine. Mais Rosalia MacArthur, bonjour.
Bonjour.
L'Australie pose ses conditions.
Sa décision dépendra des engagements pris par l'autorité palestinienne. Canberra exige que le Hamas ne soit pas impliqué dans le futur État palestinien. L'Australie n'est pas la seule à avoir dit oui mais à la reconnaissance de la Palestine. Avant elle, le Canada a exigé des réformes démocratiques des Palestiniens et Londres un cessez-le-feu et d'autres gestes d'Israël. La France, à l'origine du mouvement fin juillet, n'a elle pas posé de conditions. Si l'Australie se décide maintenant, c'est parce que, dit son premier ministre, Benjamin Benjamin Netanyahou méprise les appels du monde en prolongeant la guerre à Gaza et parce que la famine ronge les Gazaouis. De son côté, Washington, soutien numéro 1 d'Israël, dénonce une décision imprudente. Netanyahou parle, lui, d'un élan international honteux qui ne ferait qu'attiser la guerre. Reste que le 9 septembre, lors de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, si plusieurs pays montent à la tribune pour reconnaître l'État de Palestine, Israël se retrouvera acculé alors que plus de trois quarts des États membres de l'ONU l'ont déjà fait.
Les précisions de Rosalia MacArthur. Ils sont convoqués à 16h en visioconférence. L'Union européenne réunit en urgence aujourd'hui ses chefs de la diplomatie. Réunion pour tenter de peser sur les pourparlers prévus vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un sommet en Alaska pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais ni l'Union européenne ni le président ukrainien n'y sont conviés. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à Istanbul. Un séisme de magnitude 6,1 a frappé hier soir l'ouest de la Turquie et fait un mort et 29 blessés. C'est la survie de plus de 750 emplois qui est en jeu et les salariés ont peut-être un espoir. On vient de l'apprendre, le sidérurgiste Novasco est placé en redressement judiciaire. Décision du tribunal de Strasbourg qui vient de tomber. Le groupe, anciennement Ascométal, possède 4 sites de fabrication d'acier en France, dans l'Est, dans le Nord et dans la Loire. Et aujourd'hui, il est en grande difficulté, un an seulement après sa reprise. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Lou.
La justice a donc tranché ce matin et Novasco échappe à la liquidation judiciaire.
Oui, c'était la décision espérée par les syndicats qui craignaient en effet le pire, la liquidation judiciaire. La procédure de redressement est donc une petite bouffée d'oxygène. Mais faute de trésorerie, les juges de tribunal de commerce n'ont toutefois donné qu'un délai assez court, jusqu'au 25 septembre, soit un peu plus d'un mois durant lequel de potentielles offres d'investisseurs publics ou privés pourront être déposées ou améliorées. Car, rappelons-le, l'entreprise qui fabrique des aciers spéciaux, notamment pour le secteur automobile, avait été reprise en juillet 2024 par un fonds britannique, Greybull Capital, qui devait injecter 90 millions d'euros avec le soutien de l'État français, qui devait apporter lui 85 millions d'euros. L'État a bien versé 75 millions d'euros et 10 millions sont encore attendus en août, selon la CGT. À l'inverse, le fonds britannique Greybull, toujours selon les syndicats, n'aurait à ce jour apporté qu'un million et demi d'euros. Le mois dernier, 6 candidats à la reprise ont également été auditionnés. Selon les premiers retours, des potentiels candidat aurait des intérêts pour différents sites, mais pour l'instant rien de concret sur le principal site d'Agongange qui emploie 450 personnes en Moselle.
Les précisions d'Annabelle Grelier. Les lettres qu'ils ont reçues ce week-end de la part du Premier ministre ont du mal à passer chez les syndicats. Force ouvrière appelle déjà à la grève à partir du 1er septembre. Samedi, François Bayrou a envoyé 2 lettres aux partenaires sociaux, l'une précisant sa volonté de supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, sans compensation salariale, et l'autre, une feuille de route à suivre sur l'assurance chômage, avec pour objectif d'atteindre entre 2 et 2,5 milliards d'euros d'économies par an de 2026 à 2029. C'est une journée à haut risque qui nécessite la mobilisation de tout le monde. Alerte lancée ce matin par le ministre de la Santé parce que la canicule s'intensifie aujourd'hui. Météo France prévoit un épisode, je cite, extrêmement intense. 41 départements toujours en vigilance orange. 12 sont en rouge dans le sud-ouest de la Charente-Maritime à l'Aude avec des pics à plus de 42 degrés attendus par endroit. Alors le ministre appelle chacun à prendre soin des aînés et des personnes vulnérables. On pense notamment aux sans-abri ou aux personnes précaires. À Limoges, où il va faire encore très chaud aujourd'hui, par exemple, l'association Escale Solidaire fait des maraudes, distribue de l'eau. Et Thibaut Pointeau, la maraude d'hier était très attendue.
Quand le camion débarque, les bénéficiaires sont soulagés.
Oh, vous êtes revenus ?
Eh ben oui,
pas trop chaud.
En plus des traditionnelles boîtes de conserve et gâteaux, les bénévoles ont une énorme glacière.
Là, on a toute l'eau pour qu'elle reste au frais.
Ah, merci.
Tellement qu'on a peur d'en manquer en fait de l'eau, on la boit tout petit.
Les bénéficiaires sont en grande précarité, parfois sans abri.
On est à la rue en ce moment.
Vous faites comment quand il fait chaud comme ça ?
Ce que je fais, c'est de me mettre en bord de l'eau en fait. Ça amène de la fraîcheur quand même.
Je bois de l'eau.
Vas-y, il te reste de l'eau dans ta bouteille ou pas ?
En une après-midi, l'association parcourt tout le centre-ville de Limoges.
Deuxième arrêt du coup.
C'est parti, on y va.
Pour rencontrer jusqu'à 160 personnes.
Comment tu vas ?
Bonjour.
Morgan a 26 ans, il est au RSA et vit dans un petit appartement dans le centre.
Les peu de moyens que j'ai, je les dépense beaucoup dans des bouteilles qui me permettent de tenir parce qu'il faut que je m'hydrate. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la bouteille d'eau fraîche qu'il donne, j'avoue.
Marie donne une carte des fontaines d'eau potable dans la ville.
Et ben voilà, vous pouvez la remplir, la garder.
Fondatrice de l'association Escale Solidaire, c'est elle qui organise ses maraudes depuis son local.
Il faut être plus vigilant encore avec les personnes qui sont vulnérables. La fatigue, la pâleur ou ce qu'elles expriment aussi.
Et en cas d'urgence, pendant ces maraudes, l'association Escale Solidaire est en lien avec le 115.
Un reportage d'ici Limousin, ex-France Bleu. Une chaleur extrême qui nous pousse tous à chercher des coins de fraîcheur ou de l'eau pour s'y baigner. Mais attention aux noyades, parce qu'elles sont très nombreuses depuis le début de l'été. Plus de 700 en France, dont 193 mortelles. Alors la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs lance l'alerte ce midi. Savannah Ruelan, bonjour.
Bonjour Lou.
Pour limiter le risque de noyade, la Fédération réclame plus de prévention.
Oui, à l'heure où l'éducation nationale estime que près de 34% des élèves entrant en 6e ne savent pas nager, de nombreuses municipalités s'engagent pour proposer des stages de piscine pendant l'été. C'est le cas des villes de Paris, Strasbourg et Marseille. Mais il n'existe à ce jour pas d'initiative nationale en ce sens. Axel Lamotte, membre du comité de direction de la Fédération des nageurs-sauveteurs français, s'inquiète d'un manque de politique publique d'ampleur pour financer cet accès à tous.
Le seul levier, c'est la prévention, tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il faut que les Français et tous les habitants du territoire viennent à la piscine de janvier à décembre. Je fais le rapport avec l'automobile. En 1971, il y avait 20 000 morts en voiture. Les pouvoirs publics ont fait quelque chose et on est arrivé à 3 000 morts. Et aujourd'hui, nous avons les outils, puisqu'on a les piscines, mais on n'a pas les maîtres nageurs. Et donc, on n'a pas les professionnels pour pouvoir prévenir des gens de la noyade. Il est urgent que les pouvoirs publics se saisissent du problème.
Cette année, le nombre de noyades est en hausse de 45% par rapport à l'année dernière. Elle touche particulièrement les adolescents. Ils sont 13 à avoir perdu la vie dans une noyade cette année. Là aussi, un chiffre en hausse puisqu'on en recensait seulement 4 l'été dernier, toujours selon Santé publique France. Et pour le maître nageur, cela ne va pas aller en s'améliorant puisque cette hausse des noyades est liée au réchauffement climatique.
La météo de l'année dernière était plutôt une météo d'été normal. Et la météo de cette année, c'est bien une météo du 21e siècle. C'est-à-dire, dans le cadre du réchauffement climatique, on va avoir des étés de plus en plus chauds. Et moi, j'ai peur que le chiffre de cette année soit un chiffre normal dans 20 ans. Parce que quand il fera 45 ou 50 degrés, les gens vont se jeter à l'eau.
Parmi les recommandations de prévention pour se baigner en toute sécurité, Axel Lamotte recommande entre autres de toujours nager à deux.
Les explications de Savannah Ruelan pour France Culture. Merci. Une canicule qui monte encore d'un cran aujourd'hui et des pompiers toujours sur le qui-vive. Dans l'Aude, en alerte rouge canicule aujourd'hui, le gigantesque incendie déclaré mardi dans le massif des Corbières est maîtrisé. Mais les 1300 pompiers sont toujours mobilisés, toujours sur place, en vigilance maximale pour éviter de nouveaux départs de feu. En Italie, par contre, les pompiers et l'armée luttent encore contre les flammes sur les flancs du Vésuve, volcan proche de Naples, dans le sud du pays. Réduire les dégâts que peuvent causer le feu en apprenant des erreurs du passé. C'est notamment ce qu'il s'est passé en Espagne. À Cordoue, la fameuse mosquée-cathédrale a été touchée par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi. Mais le désastre a été évité de justesse. Et ce, grâce à des protocoles anti-incendie révisés juste après la catastrophe de Notre-Dame de Paris. Explication Mathieu de Taillac.
Évidemment, tout le monde y a pensé. Quand l'incendie s'est déclaré dans la mosquée cathédrale de Cordoue, tout le monde a craint le pire et s'est souvenu de l'incendie de Notre-Dame en 2019. En réalité, c'est précisément l'émotion mondiale de Notre-Dame qui a conduit les autorités ecclésiastiques et administratives à revoir leur plan anti-incendie et à renforcer la prévention. Le doyen de la cathédrale, Joaquín Alberto Nieva, expliquait à la radio Cadena Copé comment la catastrophe a été évitée.
Se puso a prueba nuestro sistema de detección de incendios que funcionó perfectamente.
Notre système de détection a été mis à l'épreuve et il a parfaitement fonctionné.
A las 9 y 11, el vigilante que está.
Il y a toujours un garde quand le monument est fermé au public. À 21h11, le garde qui était à son poste a activé le protocole d'autoprotection et de sauvetage des biens.
Pocos minutos ya se avisa a los bomberos.
En quelques minutes, les pompiers ont été avertis et quelques minutes plus tard, ils étaient au travail. La réaction était tellement rapide que pratiquement au même moment qu'on prévenait qu'un incendie s'était déclenché, on informait aussi qu'il était contrôlé.
L'incendie était controlado.
Dès le samedi matin, le bijou de la Romeyade était ouvert aux visites et la cathédrale accueillait normalement les offices, car 98% de la construction ont été épargnés par les flammes. Il arrive parfois que les hommes apprennent de leurs erreurs et des catastrophes.
À Madrid, Mathieu de Taillac. Et puis pour terminer ce journal, un mot de météo et puis surtout ce rappel. 12 départements du sud-ouest toujours en alerte rouge, canicule. Ça va de la Charente-Maritime à l'Aude, en passant par la Gironde, les Landes et le Tarn. Ce sera toujours le cas aussi demain. Ailleurs dans le pays, 41 départements toujours en vigilance orange, de l'Indre-et-Loire aux Bouches-du-Rhône. Seul le nord est relativement épargné. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé avec l'aide de Julien Loquet, à la technique Clara Gallivelle.